19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, nous sommes mercredi. Et ravi aussi, puisque nous allons commenter, analyser, décrypter l'actualité, vous le savez, comme chaque soir, ici même, dans Les Informés, sur Beurre FM, durant une heure. Et bien, qu'est-ce que je vous propose au menu? Tiens, tiens donc. Au menu, tout d'abord, à 19h, notre invité pour parler des législatives qui commence, la législative d'ailleurs qui prend forme de plus en plus. Direction dans le 78 avec Bernard Kosoko qui est complètement investi, qui nous parlera de sa 8e circonscription et qui nous parlera aussi surtout de son programme, de l'enjeu, de la stratégie. Bernard Kosoko qui est maire adjoint déjà sur la ville de Mantes-la-Ville. Ensuite, 19h30, c'est l'édito, le quoi de neuf de Dr Majid Seoussine qui viendra nous parler du festival de la politique. Oui, parce que c'est aussi un festival la politique. On connaîtra un peu plus son édito, soyez à l'écoute tout à l'heure à 19h30. Et puis au sommaire, c'est le duel, vous le savez, le duel, le face-à-face avec les débatteurs influenceurs, Elisabeth Borne, les sujets qui ont retenu notre attention, Elisabeth Borne qui est mise au défi de contenir la gauche aux législatives et puis surtout la première ministre, quel défi l'attend puisqu'il y a des noms d'ores et déjà qui sortent et qui commencent à se profiler, donc on en parlera tout à l'heure. Les quartiers, c'est le coup de gueule des quartiers, j'ai envie de dire, puisque certains habitants sont montés au créneau pour dire où sont passés les candidats issus de la diversité, où sont passés les candidats issus des quartiers populaires dans le cadre de ces législatives. On en parlera. Le remaniement, c'est aussi, vous savez quoi, des rumeurs. C'est aussi le futur gouvernement. Des noms ont commencé à se présenter, puis surtout à sortir. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a parmi les débatteurs, quelques noms qui sont d'ores et déjà connus et présents dans le prochain exécutif. Alors, que se passe-t-il au sommet de l'État? On en parle tout à l'heure. Et puis, dans une poignée de minutes, tout de suite, c'est notre invité. Là, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, vous le savez, comme chaque soir, c'est un candidat, une découverte, mais également aussi ceux qui sont investis par les différentes mouvances politiques. Direction Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, où nous accueillons Bernard Kosoko. Bonjour Bernard.
Bonjour Monsieur Farkal.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ça va, j'espère qu'on m'entend très bien et qu'il n'y a pas de larcène.
Pas du tout, on vous entend très très bien, vous êtes en direct de Mantes-la-Ville. Et d'ailleurs, vous êtes investi pour la 8e circonscription du 78 pour le 12 et le 19 juin. Bernard Kosoko, vous êtes par ailleurs aussi le maire adjoint de la ville de Mantes-la-Ville. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans ces élections législatives, Bernard Kosoko?
Alors, Adil Farkan, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, Bernard Kosoko, je suis adjoint à la culture, au commerce, développement économique et à l'emploi sur la commune de Mantes-la-Ville. La particularité de Mantes-la-Ville, c'est que c'est la seule commune de l'Île-de-France qui était détenue par le RN.
Exactement, on s'en souvient. Voilà, donc, ça a été une véritable bataille d'ailleurs.
C'est ça, il a fallu faire un gros boulot pour récupérer la commune, ce qu'on a fait avec une liste sans étiquette, donc des personnes issues de la société civile. C'est très important que je dise ça parce que ça valorise aussi mon engagement pour les législatives.
Oui.
J'ai un gros parcours dans le territoire.
Oui.
Donc que ce soit à Mantes-la-Jolie.
Vous êtes engagé, c'est vrai, vous êtes un acteur.
Voilà, tout à fait.
Vous avez toujours été engagé et actif sur la ville.
Je confirme.
Sur la ville de Mantes-la-Ville, voilà. Mantes-la-Jolie.
C'est ça. Donc ça fait 30 ans, associatif, culturel, sportif et maintenant les élections avec la casquette d'adjoint au maire.
Donc, alors, du coup, Bernard Kosoko,
c'est très important de poursuivre.
Vous avez raison de le rappeler parce que évidemment, on comprend mieux votre engagement pour les prochaines élections. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Je reprends ma question. Qu'est-ce qui vous a encouragé, Bernard Kosoko, pour ces législatives? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, on a eu une grosse réflexion autour de moi, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des acteurs associatifs. On ne se reconnaissait pas dans ce qui était proposé sur le territoire. Et à l'époque, ça s'est passé l'année dernière, on a créé un manifeste, une forme de déclaration d'existence qui s'appelle le mouvement pour le renouveau du Mantois en Yvelines. Voilà, c'est très important. Donc c'est un mouvement qui est démocrate et républicain, bien entendu, Et donc, on sait que le suffrage universel offre et permet les possibles. Voilà, donc, et donc, on doit aujourd'hui suivre cet élan. Et l'élection législative, c'est important. Ça permet de défendre à la fois les territoires, puisque le député doit être un homme de terrain, ce que je remplis toutes les cases.
D'ailleurs, c'est votre slogan. Vous dites Bernard Kosoko, sur le terrain,
sur
avec,
le terrain
vous.
Avec vous.
Et vous lancez, la campagne ce soir, me semble-t-il, à partir de 20h, à voilà, Mantes-la-Ville, au Salon Gros. Hein.
C'est ça. Donc, j'ai la chance d'être en connexion avec des partenaires et des commerçants. Et du coup, on a trouvé un lieu adéquat pour lancer la campagne, puisque c'était déjà le lieu où on avait lancé les municipales. Donc, tant qu'à faire, autant profiter de...
Ça porte chance.
De ce, voilà, de ce bon... Voilà, de cet avantage que qu'offre le Salon Gros, puisque tout...
Le Salon Gros, c'est quoi? C'est un café?
C'est une brasserie classique, hein, mais voilà, c'est aujourd'hui... Ça nous...
Rappelez l'adresse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent s'y rendre.
Boulevard Roger Salon Gros à Mantes-la-Ville, donc avec la presse locale. Mais au-delà de ça, à Dufarcade, ce qui est important, c'est que c'est une... C'est, je me lance sans étiquette, ce qui est au demeurant un peu compliqué.
Oui. Pourquoi vous dites un peu compliqué?
Ben parce qu'en général, il faut...
Pas de machine, pas d'appareil politique derrière.
Pas de machine, pas d'appareil et pas la puissance politique.
Alors comment, justement, comment comptez-vous vous y prendre, justement, quand vous dites c'est être proche de chacune et de chacun d'entre vous? Vous dites aussi c'est venir pour apprendre à vous connaître, à entendre les problématiques. Vous dites que vous êtes, exactement, vous n'êtes pas doté d'un appareil politique. Comment, alors, sur quoi vous allez vous appuyer, Bernard Kosoko?
C'est simple, hein, Dufarcade. En dehors de toutes mes casquettes, j'ai aussi la chance d'être cadre dans le logement social. Donc il y a des choses à défendre dans le logement social, que ce soit en termes de villes carencées,
oui,
qui respectent le nombre de pourcentage de logements, c'est-à-dire la loi SRU t'oblige à avoir 20 à 25% de logements sociaux, et on a des communes qui ne jouent pas le jeu. Voilà, donc c'est pareil, il faut travailler aussi sur... les commissions d'attribution de logement, pour qu'elles soient beaucoup plus transparentes.
Oui.
Parce que comment expliquer à quelqu'un qui souhaite un logement et qui fait un dossier, qui remplit toutes les cases, on lui dit non, il faut attendre un an que votre dossier soit valable pour pouvoir prétendre à un logement. Vous voyez?
Donc ouais,
ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, entre autres, hein,
quel va être le fil conducteur pour la campagne que vous allez mener, qui se lance tout à l'heure à 20h. Comment vous allez... Le terrain?
Le terrain, parce que la particularité de la 8e circonscription, et encore une fois, c'est pareil, hein, et on a besoin d'expliquer aux gens, à nos compatriotes, parce qu'on parle, nous, en termes techniques, de 8e circonscription, élection législative, mais l'habitant lambda, pour lui, c'est nébuleuse. Voilà, il ne sait pas c'est quoi les députés, donc il faut passer tout son temps à expliquer cette partie, et surtout... La particularité sur les solutions, c'est qu'elle est à la fois urbaine et rurale.
Bernard Kosoko à l'Assemblée nationale, c'est possible? Vous y croyez? Vous y avancez? Oui.
J'y crois fortement à Guy Parkin. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats à mener, notamment, je parle des assistants familiaux, donc ceux qui s'occupent des enfants placés de l'ASE. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres thématiques à porter sur les territoires. Mais moi, avant tout, je tiens à faire de la proximité.
Mmh.
Voilà, parce que défendre...
Un député véritable de proximité. Mais alors, oui, vous savez, beaucoup regrettent les habitants des quartiers populaires. Hein. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de vagues. Beaucoup regrettent justement qu'il n'y a pas assez de représentativité justement des habitants ou des personnalités issues des quartiers populaires qui sont investis dans le cadre de ces législatives. Vous dites quoi, vous, Bernard Kosoko?
Moi, je dis que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Voilà, c'est simple.
Il
ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire « Ah ben toi, ben finalement, on pense à toi, non. » Et la particularité de ces législatives-là, c'est que justement, il y aura beaucoup de personnes issues de la diversité qui seront présentes et qui tentent leur chance. Voilà, un peu partout sur le territoire. Donc voilà, aujourd'hui, ça a tendance à être logique. Et c'est très important à dire, puisque on en a parlé, à dire Farkan, on en parlait, et moi j'estime que les hautes instances, ceux qui nous représentent, doivent être à l'image de la population. Ce qui n'est pas le cas.
Bernard Kosoko, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, qui sont justement de la 8e circonscription, puisque vous lancez, ça y est, c'est désormais officiel, ce soir à 20h, votre campagne. Qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme message ?
Mon engagement pour cette campagne, je vous remercie de me poser ces questions, c'est être proche de chacune et de chacun d'entre eux. C'est venir pour apprendre à les connaître et entendre les problématiques, donc ça c'est le cas en ce moment, de chaque milieu, que ce soit, comme je l'ai dit, rural et urbain.
Vous voulez porter leur voix à l'Assemblée ?
Voilà. Voilà, tout à fait. Et aussi le monde associatif, les sportifs également, et les industriels et le secteur tertiaire. Voilà.
Eh bien, Bernard Kosoko, bon courage, bonne chance.
Merci, Adil Farkan.
Et bon courage à vous.
Bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM et à tous les auditeurs de la 8e circonscription.
En plus, c'est vrai qu'on est très écoutés chez vous là-bas, hein, dans le 78. Je
tout
dois le
fait.
Dire. Bernard Kosoko, qui est au candidat, donc officiellement.
Sur les réseaux, Adil Farkan, ben, c'est Bernard Kosoko. Voilà.
Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Bernard Kosoko. Donc, candidat aux élections législatives pour le 12 et le 19 juin prochain. Merci à vous, Bernard Kosoko. Bon courage. À très bientôt.
Merci, Adil Farkan.
19h12, on va lancer la pub avant d'être en retard. Et puis, on reçoit nos invités qui sont là, ici, sur le plateau. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h20, les informés avec Adil Farkan.
Il est 18. Allez, le face-à-face, c'est parti tout de suite.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Gamal Abina, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ah, très bien, Adil.
Avec Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, bonjour, ça dépend, bonsoir, pour comment on l'entend. Okay. Abdeslamis Itach, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Bon, messieurs, trois sujets qui ont retenu notre attention, mais surtout les auditeurs aussi au 0153 48 3000, qui peuvent intervenir à tout moment, évidemment pour commenter l'actualité. On va parler d'Elisabeth Borne, qui elle veut contenir la gauche, mais surtout quel est les défis qui l'attendent. Abdeslam Itach, je sais que vous êtes président du Modem dans le 95, mais surtout, ça y est, vous êtes investi.
Vice-président.
C'est ce que j'ai dit, vice-président.
Vous avez dit président.
Ouais. Vice-président. Non, j'ai été trop vite.
Emmanuel Michel, que je salue. D'ailleurs, on est ce soir très très écouté, hein, du côté de la 9e circonscription.
Et ben, on les salue chaleureusement.
On salue chaleureusement tous nos auditeurs. Et oui, en effet, je suis candidat sur cette circonscription, à savoir Gonesse, Goussainville, Louvres et en fait 27 petites communes.
Ça se bouscule là-bas. Hein. Ça se bouscule. Hein.
Ben, ça se bouscule un peu partout. Ouais. Hein, et de toute façon, vous avez tous suivi l'actualité des investitures, des gens qui n'ont pas été investis, qui sont engagés. Qui sont de la majorité présidentielle, mais qui ne l'ont pas été. Voilà. Le but, c'est d'offrir la possibilité aux électeurs de pouvoir choisir leur candidat,
oui,
en fonction du programme qui est le leur. Moi, en ce qui concerne mon programme, ça sera un programme qui sera écrit par les habitants. Et
vous dites un député qui ose, ça veut dire quoi, un député qui ose ?
Eh ben, justement, vous savez que
un député qui ose aura.
Je l'ai ajouté à la suite d'un échange avec un ami qui m'a dit franchement c'est osé ce que tu fais. Et ben je lui ai dit écoute, je suis le député qui ose. Et on l'a gardé et ça fait l'unanimité dans l'équipe de campagne. Donc le député qui ose, parce qu'en effet, et lorsque vous verrez le programme, parce qu'il n'est pas question de se brider, ça sera un programme qui ose.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à cette circonscription que vous représentez ? Enfin, que vous représentez, vous êtes investi, ça y est, c'est officiel, la 9e circonscription du Val-d'Oise. Vous avez envie de leur dire quoi, celles et ceux qui vous écoutent ?
Alors, que je ne serai pas le candidat du silence ou celui qui vote tout, le doigt sur la couture du pantalon. J'ai toujours été... alors, on me reproche d'avoir du caractère, mais j'ai toujours assumé mes positions, j'ai toujours défendu les choses qui me semblaient nobles. Et évidemment, je serai... ce que j'ai toujours été, un homme de terrain, actif, auprès de tous les administrés de cette circonscription. Je serai à leur écoute, je serai visible, et je ne serai pas visible que lorsque je suis en campagne.
Là, pour le coup, si la représentativité, elle est là, elle est présente.
Oui, elle est là.
Mais on va en parler tout à l'heure.
Très bien. Mais écoutez, mais justement, cette visibilité et toutes ces personnes qui n'ont pas été choisies, et on peut en parler de ces candidats. Alors, j'aime pas trop le terme. Dit de la diversité, on voit bien que ça s'est quand même blanchi pas mal. Ben, disons que les jeunes issus des quartiers ont été très très peu investis. que ce soit dans la majorité ou dans les autres listes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je déplore. Et tout à l'heure, Bernard Kosoko disait une chose qui est juste. C'est que le pouvoir, il ne se donne pas, il se prend. Il faut absolument y aller et arracher la victoire et faire justement l'unanimité auprès des électeurs.
Une conscience, donc une prise de conscience. Hein,
mais complètement. Et moi, je laisse le choix aux électeurs.
Eh bien, on va en parler tout de suite, messieurs. Vous savez quoi? Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc, c'est officiel, investi candidat aux élections législatives dans la 9e circonscription du Val-d'Oise. Gamal Abina, Emmanuel Dupuis, Abdeslam Itache, Elisabeth Borne, toute première ministre, ça y est. Hein. Elle, est pour le coup, c'est officiel. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Effectivement, elle est mise au défi, hein, sur beaucoup de sujets, notamment, qui l'attendent. Mais notamment la gauche aux élections législatives. Ça sous-entend quoi, Gamal Abina?
Parce qu'elle vient du PS au départ, elle était avec Jospin et tout le reste. Le problème de Borne, c'est que c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une technocrate, donc qui est extrêmement compétente dans ce qu'elle sait faire. Elle a été trois fois ministre avant. Mais le problème.
Mais sauf que la gauche, il la qualifie de la droite. Vous, vous dites gauche, et la gauche dit non, elle est de droite.
Elle est issue de la gauche, comme Macron est issu de la gauche. C'est une gauche évoluée, qui a peut-être pris un certain sens du réalisme. Peut-être, je ne sais pas, ça on ne peut pas juger. Mais une chose est certaine, c'est que c'est surtout de la symbolique. Ça fait deux fois que la gauche type... Alors Macron, pour moi, c'est Mitterrand bis, hein, je dirais, déconseillé par Jacques Attali. Comme par hasard, comme Mitterrand, il nous place une femme Premier ministre. À l'époque, c'était Cresson. Comme par hasard, ils nous font une histoire qui ne durera peut-être pas, parce qu'il y a quand même législatif qui arrive. Si jamais ils perdent, elles sautent. Hein. Donc moi, je pense que c'est plutôt une symbolique plus qu'autre chose, de transition sans doute, parce qu'elle ne va peut-être pas être maintenue. Mais une chose est certaine, c'est qu'on lui reproche d'être technocrate, ce qui est un peu bête d'ailleurs, à mon sens, ça ne veut rien dire. On sait aussi qu'elle a une histoire très, très, très costaud. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote pour sa famille. Donc Borne ne s'appelle pas Borne, elle s'appelle Bornstein. Borne, c'est le nom.
Ça, on le savait.
Voilà, c'est le nom que son père a pris pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le nom de résistance. Il a pris ce nom-là, pourquoi? Parce qu'il se cachait simplement et qu'ils ont conservé cette habitude. C'est une habitude qui est très très ancienne par rapport à cette communauté juive qui effectivement a subi beaucoup et ne voulait pas être trop visible. Et à côté de ça, son grand-père a fait un truc, c'est là la petite anecdote amusante. Son grand-père qui était pharmacien a sauvé Rommel, qui avait été à l'époque, vers la fin de la guerre, attaqué à la mitrailleuse dans son véhicule. Et c'est le grand-père qui l'a soigné. Edwin Rommel, qui était le grand stratège militaire de l'Afrika Korps. Donc, il a soigné un des nazis les plus connus qui avait participé d'ailleurs au coup d'État contre Hitler. Enfin, la tentative de coup d'État. Et donc, ça, c'est pour dire, je mets le personnage un peu dans une profondeur historique. Et elle, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui a un parcours qui est assez bon, qui est même très bon. Elle a fait, je crois, le Pont des Chaussées, je me trompe pas.
Oui.
Normalienne, bon, c'est une grosse
tête. Hein.
Absolument, c'est quelqu'un qui est très compétent, elle n'est pas très vieille, elle a 61 ans, mais ce qu'on note, en dehors de la symbolique de la femme, c'est que c'est une femme qui a un certain âge. C'est-à-dire que le côté gamin un petit peu limite dans la Macronie, on voyait beaucoup de jeunes comme ça qui l'avaient poussé en avant, eh bien, elle a balayé un petit peu ça d'un revers de main. Il y avait déjà eu son prédécesseur. Et surtout, on se rend compte, et c'est là où je rejoins Abdesalem, que même chez Macron, qui faisait un effort sur la question de la diversité, comme on l'appelle, eh bien, il y a un recul partout. Tous les candidats, je ne vais même pas parler de la France insoumise, où c'est une catastrophe, tous les candidats qui sont un peu trop colorés ne sont pas présentés quasiment.
On en parlera tout à l'heure. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que vous dites, vous? On vous écoute, évidemment. Est-ce que vous partagez le point de vue de Gamal Abina ou un tout autre?
Oui, alors tout ce que Gamal a dit est vrai. En même temps, je ne suis pas du tout certain qu'Elisabeth Borne soit intérimaire. Je pense que le choix d'Elisabeth Borne a été mûrement choisi. C'est pas pour la débarquer dans deux mois, quel que soit le résultat. Je rappelle que le Premier ministre est issu du parti qui arrive en tête. Absolument. Il y a très, très peu de chances, et je pèse mes mots, que ce soit un autre parti que La République En Marche qui arrive en tête. C'est encore une fois, hein, le premier parti. Donc la République.
Renaissance, non?
Oui, ce sera la nouvelle dénomination de Renaissance. Il faut s'y faire.
Qu'est-ce que vous représentez d'ailleurs?
Il faut s'y faire.
Renaissance. On va y venir.
La majorité. Il faut s'y faire. Non, le parti, le MoDem, c'est pas Renaissance.
Non, c'est pas Renaissance.
Le Premier ministre,
c'est la majorité.
Le Premier ministre sera issu du parti qui arrive en tête, donc de Renaissance, et pas du MoDem.
C'est ça.
Et encore moins de la France insoumise. Et encore moins de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Donc je pense qu'elle est là pour rester. La question, c'est moins la composition de ce gouvernement que les périmètres d'action de ces ministres. Car la vraie révolution, c'est le changement de portage des ministres. Il y aura sans doute un grand ministère des Finances qui va englober une sorte de ministère de la résilience à la crise,
mais c'est la résilience,
de la Covid. Je ne sais pas si c'est le terme,
mais
c'est la logique. C'est un grand ministère des Finances dans lequel il y aura la reconstruction économique, politique et sociale par rapport aux deux années de crise politique, économique et sociale due à la pandémie. Il y aura sans doute un grand ministère des Affaires étrangères dont le but sera de penser autant notre adhésion au projet européen et autant notre adhésion et notre mobilisation vers notre sud, vers notre profondeur stratégique, la Méditerranée, vers l'Afrique, avec une grande dimension de la coopération, de la francophonie. Donc un super ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Défense sera non seulement le ministère de la Défense, mais le ministère de la mémoire combattante, avec tout ce que cela représente par rapport à la manière dont le président veut accompagner la dimension historique de la fin de la colonisation, oui, et donc la prise, oui, en compte de cela dans le récit national. Donc c'est pas tellement qui va être ministre, mais le poids des ministères et leur dimension. Il est tout à fait normal que la première ministre soit la chef d'une majorité qui défend les couleurs et le bilan, ouais, ou le, c'est projet
logique,
du président.
C'est logique.
Et ce n'est pas du tout scandaleux qu'elle n'ait pas été élue. Je rappelle que le président n'a jamais été élu non plus.
Ça, c'est les faux arguments.
N'a jamais été élu.
Comment ça?
N'a jamais été élu avant, d'être élu président.
Ça, c'est les faux arguments. Je suis d'accord.
Abdeslam Itach, on vous écoute. Dites-moi alors, concernant donc la première ministre.
Bah, écoutez.
Pareil. Alors, et puis les défis qui l'attendent.
Alors, tout d'abord, c'est une bonne chose qu'une femme soit première ministre. Je regarde seulement la coïncidence. On se retrouve 30 ans après Edith Cresson. Quand on sait le sort qui lui a été réservé et la misogynie qu'elle a dû subir à l'époque. Alors, comparaison n'est pas raison. Cette époque n'est pas celle-ci. Enfin, l'époque d'il y a 30 ans. Moi, j'ai espoir à ce qu'elle réussisse. Et vous savez, à mon parti, je préfère mon pays et que j'espère que nous réussirons justement à avancer ensuite sur les familles politiques. Et Emmanuel Dupuis parlait justement du nouveau nom de la République en marche, Renaissance. Il faut croire que ce parti est mort et qu'il cherche à revivre.
Je suis pas sûr que ce soit ça.
Oui, non, mais c'est ouais, c'est ma lecture.
C'est très ambitieux comme lecture.
Non, mais ce que je veux juste dire, et oui, c'est juste un reproche d'ailleurs, hein. Comment voulez-vous que les autres partis puissent exister lorsque ceux-ci ne sont pas investis? Je vous prends l'exemple du Val-d'Oise. Pas un seul candidat du MoDem a été investi. Pas un seul. On va me dire Pupponi est apparenté MoDem. Okay. Il n'est pas MoDem. Donc, vous voyez, pas de titulaire, pas de suppléant. Donc, vous voyez, il y a encore un problème. On a la République en marche, je continue à les appeler comme ça, la République en marche qui continue à commander et à diriger tous les autres partis. Et ça, c'est inacceptable. Vous savez, moi, je fais partie d'une famille politique qui s'appelle le MoDem, le Mouvement démocrate. Nous avons la démocratie dans notre ADN. Si, justement, la parole n'est pas donnée aux uns et aux autres, c'est juste impossible.
Oui.
On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il faut de la couleur, il faut de la diversité, il faut des gens qui viennent de tous horizons, de toutes catégories socio-économiques, et qu'on puisse tous travailler avec des voix complètement, oui, différentes.
Renaissance, moi, ça m'envoie au temps moderne.
Oui, avec
ça veut dire fini la vieille époque.
Autour du cou et le tutu.
Je pense que Renaissance, parce que Macron est un homme de communication aussi, il ne faut pas oublier, c'est un bon communicant. Renaissance, c'est surtout la renaissance de la France qu'il est en train de cibler, qu'il est en train de viser. Quand il parle de grand ministère, Emmanuel, il a raison. Il va faire des grands ministères parce qu'il y a un problème sur la profondeur historique de la France par rapport à l'Afrique. Il y a un vrai problème. La France est en train de reculer partout en Afrique. Hein. Je ne vais pas faire l'article, c'est un peu long. Bref, c'est les Russes qui prennent la place et les Chinois. Il y a un problème par rapport à l'économie française qui est littéralement en train de s'effondrer. On le voit bien. Et il y a surtout un problème par rapport à la question de la représentation. Et on ne peut pas dire, moi j'aime pas l'idée, j'aimerais bien défendre cette femme première ministre, d'abord parce que c'est une femme et c'est pas trop tôt, la misogynie ça va, et surtout j'aimerais défendre l'idée, c'est que c'est pas parce qu'elle n'est pas élue, ça je trouve ça intolérable quand même. Elle n'est pas élue donc elle est mal nommée, non mais.
Bah j'espère que non.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah, si quelqu'un est compétent et qu'il est bien nommé, c'est peut-être mieux que quelqu'un d'élu, incompétent, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis avec Bush, on l'a vu en Italie avec Berlusconi, enfin ça s'est multiplié les Trump aux États-Unis, même s'il était compétent sur l'économie. Mais quoi qu'il en soit, faut pas faire une distinction entre le fait de ne pas jamais avoir été élu et être nommé. Je ne vois pas le rapport. Alors, il faut être très clair, le Premier ministre est nommé. Il est choisi par un chef de l'État. On prend De Villepin, qui a été quand même un ministre important, qui n'a jamais été élu, d'accord. Et pour autant, c'est un bon. Donc, ce n'est pas l'argument. Puis, pour finir, par rapport à la Renaissance, je pense que M. Macron fait un pari osé. Je ne suis pas certain du tout, là. Par contre, je mesurais mon propos, que la gauche réunie et ce gros coup qui a réussi, pour le coup, Mélenchon, soit pas en mesure de bousculer un peu les codes. Je suis pas sûr.
19h31, on va ne pas se mettre en retard, justement, et c'est le Quad 9. Et c'est avec, comme chaque mercredi, le docteur Majid Seoussine. C'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9.
Bonjour docteur Majid Seoussine.
Bonjour Adil.
Comment ça va, vous allez bien?
Pas trop mal, et vous-même?
Très bien, je vous remercie, heureux de vous retrouver comme chaque mercredi, et on vous écoute pour votre édito du Quad 9. C'est le Festival de Cannes, paraît-il.
Eh bien oui, mon cher Adil. Le Festival de Cannes a commencé et c'est toujours un moment magnifique pour les cinéphiles. Je suis d'ailleurs surpris que vous soyez là ce soir avec nous, car après cette super montée des marches que vous avez fait hier au bras de Julie Gaillet, je ne pensais pas que nous vous verrions aujourd'hui.
Discrétion, oh là là, ça balance.
T'es passé Macron à Hollande, bien.
C'est ça.
Là, c'est du recul.
Ah bah oui, mais... Cannes, c'est le défilé des stars, l'angoisse du palmarès, qui aura la palme, qui aura le prix spécial du jury. Et j'imagine que c'est un peu ce qui se passe en ce moment entre Matignon et l'Élysée, où les stars de la politique montent les marches, espérant rapporter en guise de palme un Marocain. Et là, je ne parle pas d'un de vos cousins, Adil, hein. Il s'agit de Marocains ministériels. Rassurez-vous, tout va mal et ça ne va pas s'arranger. Ça commence déjà par le choix d'une première ministre qui, en plus d'être femme, est socialiste de droite et en plus technocrate. Je suis d'ailleurs d'accord avec vous, Adil, vous qui dites tout le temps que la France va mal depuis qu'on a mis la parité.
Clochette, Noméo.
Mais il va falloir s'y faire. Après tout, les Allemands ont eu Angela Merkel et les Anglais Margaret Thatcher et la reine d'Angleterre. En tout cas, Madame Borne a bien du courage car tout va mal. La guerre en Ukraine s'enlise et va durablement nous empêcher de manger des briques bien gras, cuits dans l'huile de tournesol. Et je ne suis pas loin de penser, comme BFM TV, que le ramadan, avec tous ces musulmans qui font cuire des bourreks, a probablement précipité la pénurie de vitres.
Clochette, non mais oh.
Tout va mal, disais-je. Et l'inflation risque d'être la grande star de l'année. Entraînant une remontée des taux d'intérêt, un renchérissement des biens et des services.
C'est vrai.
Fini la belle vie au-dessus de vos moyens, mon cher Adil. Adieu Dubaï. Adieu Dubaï.
Ça, j'ai compris. Hein.
Adieu les promenades en hors-bord à Cannes, les chaînes en or et les soirées à 10 000 euros avec des influenceuses pas farouches. Tout va mal.
Nous dites, on va croire vraiment que c'est vrai, hein? Le pauvre.
Tout va mal, ne vous justifiez pas. Tout va mal et va bien falloir se préparer à la reprise des manifestations. Car à l'automne, les grenades lacrymogènes vont se ramasser à l'appel.
Ce serait avec Tom Cruise ce soir.
56% des Français estiment que le bilan du président est mauvais. 72% pensent qu'il sert surtout les privilégiés. Tout va mal, et notamment à l'hôpital, où on voit de plus en plus de services fermés. Comme cette semaine, les urgences du CHU de Bordeaux,
c'est terrible.
Qui ferment désormais la nuit.
C'est terrible.
Et je ne vous raconte pas ce qui va se passer cet été. Et je ne vous raconte pas ce qui va se passer cet été.
C'est une épicerie.
Ouais.
Ben voilà. Je ne vous raconte pas ce qui va se passer cet été quand les professionnels prendront leurs vacances bien légitimes.
Ouais.
Elisabeth Borne va devoir entamer un plan de sauvetage de l'hôpital public, mais pas que de l'hôpital public, et on ne sait pas avec quel argent, puisque désormais l'argent magique n'existe plus,
ouais,
et que la remontée des taux d'intérêt va le rendre plus cher, quoi qu'en dise ceux qui nous promettent des promesses irréalistes de planches à billets qui vont tourner en permanence.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est d'ailleurs à se demander si finalement Elisabeth Borne a toute sa tête d'accepter d'être première ministre, et si finalement ce n'est pas un équivalent suicidaire que cette mise en danger, puisqu'on ne peut la soupçonner d'avoir accepté le poste après avoir fumé un joint ou bu un baril de GHB.
Non mais oh !
En tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne chance, car après tout, c'est notre intérêt à tous que cela se passe pas trop mal. Et j'avoue tout de même avoir un faible pour les femmes autoritaires et un peu rigides, mais ça vous le savez déjà.
Ça je le sais déjà, effectivement, bravo. Bravo pour le billet d'humeur, pour votre édito, comme chaque mercredi. Je sais qu'on va avoir beaucoup de retours de nos auditeurs, comme chaque mercredi d'ailleurs. Mon cher docteur, prenez soin de vous.
Oh bah, je fais que ça. Je ne fais que ça. Je suis un égoïsme crasse, mais vous imaginez pas à quel point je prends soin de moi.
Aïe, 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 aïe. Vous avez bien raison. Prenez soin de vous. Docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également hôtel militaire, donc les Invalides, mais également aussi au SAMU. Merci, mon cher docteur. À mercredi prochain.
À mercredi.
19h35, la pause de la dernière pub, et on se retrouve pour la dernière ligne droite concernant l'autre sujet aussi qui nous a interpellés. C'est les législatives. Ça grogne, ça gueule, c'est... terrible, les habitants, mais surtout les personnalités des quartiers populaires, eux, ils disent, et nous alors, dans ces législatives, on est passé à la trappe, et bien on en parle.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Informés, c'est avec Gamal Abina, les informés, c'est avec Emmanuel Dupuis, et enfin, les informés, c'est avec Abdislam Itach. Vous le savez, nous parlons, et toujours, donc, concernant ces législatives qui se tiennent le 12 et le 19 juin prochain. Ça se bouscule, les amis, puisque vous savez quoi, à Créteil, nous allons aller direction Créteil, parce que Salika, si vous la connaissez, Amara, qui est une figure emblématique de Créteil, hein, candidate pour porter la voix des quartiers populaires, elle en a marre parce qu'elle dit effectivement, elle milite pour faire entendre la voix des habitants des quartiers populaires et des gens issus de l'immigration. Il y a un véritable problème quand on parle des législatives et justement de celles et ceux qui sont issus des quartiers populaires, mais surtout ceux qui sont issus des quartiers populaires qui ne sont pas investis. Pour quelle raison d'ailleurs ça pose toujours problème ?
Bah moi, j'ai envie de dire. Jamal Abina. Je vais dire une chose. Bon, on est tous amis sur le plateau, c'est pas difficile. Abdeslam se présente, et je l'en félicite d'ailleurs, parce que je le connais depuis très longtemps. C'est courageux, parce qu'il a enfin pris son bâton de berger pour y aller. C'est quelqu'un qui est très investi en local. J'ai eu l'occasion de le voir régulièrement chez lui. Et c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il croit en ses idées. Attends, ça veut pas dire qu'il va percer, mais au moins il sera entendu.
Et il le fait.
Il le fait. Pour cela, ne serait-ce que par rapport à sa parole donnée, je pense que ça vaut le coup de le voir. J'espère l'emporter et que les gens lui fassent confiance. Et je dis rarement ça pour des candidats, il n'y en avait pas beaucoup autour de nous malheureusement, mais il y a un problème de représentativité qui est lié à deux choses. La première, Macron arrive aux commandes avec une ouverture extraordinaire de l'Assemblée nationale à la diversité. C'est la première fois que l'Assemblée n'a pas ces 3% de...
Ah oui, c'est impressionnant d'ailleurs.
Il a fait monter plus de 10%,
c'est 10% incroyable. C'est incroyable.
Et quand je dis diversité, c'est vietnamien, africain...
Non, de tout.
Il y avait tout.
C'est la première fois dans l'histoire.
Et puis malheureusement, il y a une bascule au bout de 2 ans. L'aile droite de son parti, la droite dure, on peut l'appeler comme ça, les bergers et autres, ont commencé à prendre l'ascendant sur lui et ont commencé à l'isoler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on voit un homme qui n'est pas du tout raciste, qui est très ouvert. Puis après, il y a des dégradations, effectivement. Et au fur et à mesure, il y a eu une répression qui s'est organisée sur les associations les plus représentatives de la diversité. On parle du CRI, CCIF, l'UIF même, moi je ne suis pas représenté par eux, mais enfin ils existent. Ils avaient fait le CFCM qui a été liquidé, tout ça s'est liquidé. Ça a donné quoi comme signal fort? Ça dit que finalement, ces fils d'immigrés, filles et fils d'immigrés, bah, ils pèsent rien, même sur le plan associatif, alors qu'ils étaient que dessus.
Oui.
Donc à partir du moment où on n'a pas de représentation importante, de représentants importants plutôt, que même les grands leaders des figures connues, je ne vais pas donner les noms tellement il y en avait, il n'y en a plus aujourd'hui, ont disparu des médias. Il n'y a plus personne qui parle pour ces quartiers. Et ces quartiers sont infâmes. Et il se trouve qu'ils se sont dit, bah, puisqu'ils n'ont pas de poids électoral, puisqu'ils ne nous impressionnent pas et qu'ils n'ont même pas été capables de se défendre, on peut leur faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un vrai recul démocratique pour le coup.
Bah oui,
et
oui,
je le déplore.
Oui,
parce
oui,
que
oui, oui, oui.
On est quoi? On est à près de 60 ans après la guerre d'Algérie, quand même. Ça a une symbolique forte.
Elle dit, un autre mot ne sera pas possible si l'Assemblée nationale n'est pas aux couleurs de la France. Bah, ça, c'est Sali Camara. Et elle a raison.
Elle a tout à fait raison. C'est pour ça que je dis, je vais finir là-dessus. Mon inquiétude réellement, c'est que aujourd'hui, on recule. Et c'est la France qui est le pays.
Il y en a marre qu'on nous utilise uniquement pour des colleurs d'affiches et que nous existions plus que quand il y a des places.
Ça, les réservoirs de voix.
Absolument.
La gauche en général.
Le bétail électoral.
Et je vais être méchant parce qu'il y a un parti qui commence vraiment à énerver. C'est celui qui a le plus dragué les gens des quartiers.
Qui?
C'est la France Insoumise.
Ah.
J'ai une amie que vous connaissez, Sabrina Nourri, qui n'a pas été investie. Alors qu'elle s'est battue comme
c'est
une
lionne. C'est pas bien, c'est pas bien.
Elle s'est battue comme une lionne pour.
Ouais, franchement, c'est pas bien.
Mélenchon, elle y croyait.
Exact, ouais, ouais.
J'ai prévu de faire attention parce que les têtes d'affiche, c'est tous des Européens.
Ouais.
Donc là, il y a vraiment.
Moi, on l'a reçu ici régulièrement.
Alors, votez pour eux parce qu'ils vont nous sauver.
Elle se battait, la pauvre.
Comme une folle. Vraiment, elle a tout fait. Donc votez pour eux parce que soyez-en, elle sera un peu sympa avec nous. S'ils veulent être sympa avec nous, il fallait investir des gens de couleur. Ils l'ont pas fait.
Emmanuel, vous êtes au téléphone?
Non, pardon.
C'était avec la première ministre.
Non, c'était Elsie qui m'appelait.
Ah, oui.
Moi, je partage votre point de vue. Malheureusement, ça se produit.
Mais pour quelle raison?
Tous les partis.
Ok, on peut tout partager, mais pourquoi? Pourquoi on en est là?
Premièrement, il faut avoir à l'esprit que ce n'est
on pas. On veut pas les reconnaître.
Ils ce font n'est pas aussi. La première fois.
Et c'est pas des Français.
Que cela est confirmé, nonobstant ce qui a été dit avec justesse, c'est-à-dire que la précédente mandature était un petit peu plus colorée que la précédente. Mais en même temps, il y a aussi une réalité qu'il faut ne pas occulter. C'est qu'une partie de ceux qui étaient issus de cette diversité ont décidé de ne pas se représenter aussi.
Mmh.
Attention, il ne faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui n'ont pas investi. Parce que les sortants avaient le droit de se représenter.
Oui.
Se représenter.
Oui.
Bon, ça j'en viens à ma conclusion. C'est-à-dire que les élections législatives ne correspondent plus tout à fait à l'idée que l'on se fait d'une centralité du pouvoir ou une capacité d'action ou de levier. Le président va gouverner sans le Parlement.
Tout à fait d'accord.
Le gouvernement et l'exécutif ne vont pas d'un coup de baguette magique reconnaître enfin la légitimité du pouvoir législatif. Donc c'est pas si important que ça. Ce qui est beaucoup plus important.
C'est pas si important que ça.
Symbolique, si, ça a l'air symbolique.
Non, ce qui est important, c'est qu'il y ait.
C'est la France, quoi. Et sa pluralité, sa France, elle est plurielle. La France, elle est.
L'Assemblée doit être
à l'image de son peuple. Je sais pas, mais on parle quand même.
L'Assemblée ne peut pas être. Vous n'écoutez pas ce que je dis.
Oui,
peut-être. L'Assemblée ne peut pas être à l'image de la France, car le président a tout fait pour minorer l'Assemblée en tant que telle.
Mais c'est bien le problème.
Le poids de l'Assemblée n'est pas reconnu là-dessus.
L'Assemblée n'est pas la France.
Mais en termes symboliques,
on lui a ôté sa légitimité.
Oui, mais en termes symboliques, ça fait du sens. C'est-à-dire que l'Assemblée américaine, par exemple, le Parlement américain, lui, il est représentatif. On a quand même des groupes parlementaires.
Parce qu'il y a le principe des checks and balances.
Absolument.
Le Sénat et la Chambre des représentants américains est un contre-pouvoir.
Absolument.
En France, le Parlement n'est pas un contre-pouvoir.
N'est plus un contre-pouvoir.
L'Assemblée.
L'Assemblée nationale.
Le Sénat.
C'est le Sénat.
Le Sénat.
Il l'est plus.
C'est clair.
Comment?
Le Sénat, c'est l'opposition.
Ah oui, c'est l'opposition. Oui. Abdeslam Itache, alors qu'est-ce qu'on peut dire évidemment sur la représentativité, les minorités visibles, les législatives, les investitures? Il y a un problème?
Il y a un vrai problème, et Emmanuel Dupuis le disait, hein, que ça se produisait dans tous les partis, et c'est bien ça le drame. Vous voyez, il n'y a pas un parti...
Moi, ça me désole, l'histoire de Sabrina Nouri.
Oui, il n'y a absolument aucune exception.
Elle s'est battue, la pauvre.
Même ceux qui ont eu espoir à un moment dans un renouvellement du paysage politique, il y a 5 ans de cela, Emmanuel Macron a été élu sur ça.
Absolument.
On a carrément balayé... vous avez Fillon qui a perdu l'élection, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui ont perdu la primaire,
c'est bien de le dire.
Manuel Valls qui a perdu la primaire. Vous voyez, il y avait une vraie volonté de renouveau, et je me rends compte que en fait le système se reproduit, et on est dans la culture de l'entre-soi où on continue toujours à favoriser les mêmes, et c'est bien ça le drame. Vous voyez, finalement c'est une chimère que de dire que les gens issus des quartiers ont leur chance. C'est faux, ils n'ont pas leur chance.
Moi, je suis un peu d'accord avec Gamal Abinaï. Ceux qui ont vraiment fait miroiter au quartier des populaires où on pouvait distribuer les investitures, vous m'arrêtez, c'est la France insoumise.
Oui, ils l'ont menti. Clairement, oui.
Mais c'est bien ça. C'est bien ça.
Parce que dans le sud de la France, on m'a appelé, figurez-vous, des figures locales, hein, vraiment des pointures, hein, tu vois, qui m'ont appelé et qui m'ont dit: écoute, nous, on va passer un vrai coup de gueule à l'antenne parce qu'on en a marre. Le Jean-Luc Mélenchon nous a promis des choses et il nous a plantés.
Oui, bien sûr. Mais il n'échappe pas à la règle, de la même manière que dans la majorité présidentielle, il s'est passé exactement la même chose.
Mais moi, j'allais dire une chose par rapport à ça. Je peux comprendre que la classe politique classique, on dira la droite et les grands partis institutionnels, ne parie pas sur des pauvres, en l'occurrence, parce qu'il y a ce mécanisme que connaît sûrement forcément bien Emmanuel Dupuis, qui est le principe de la reproduction des élites. C'est-à-dire qu'une élite qui vient d'école, qui a fait de grandes écoles, qui est bourgeoise en général...
C'est Jimmy Dalidou qui dit ça régulièrement, il a raison
là-dessus.
Oui, qui a piqué un sacré coup de gueule.
Oui, ça, j'en viens d'entendre d'ailleurs. Ouais. Ça, je peux le comprendre. La reproduction des élites est automatique en France parce qu'il y a
une... Il a raison de le rappeler.
Oui. Mais par contre, je ne le comprends pas, et c'est là où j'en veux vraiment la France Insoumise. Je ne suis pas de gauche, donc je n'ai pas de problème avec ça. Je ne le comprends pas de la part...
Moi non plus.
À plus forte raison. Je ne le comprends pas de la France Insoumise, qui ne vient pas d'élite, à part peut-être Mélenchon, on dira. Tout le reste, c'est quand même, entre guillemets, dépouillé. J'utilise le terme à dessein, j'en fais partie. Donc tout le reste, c'est les gens de la basse couche de la sociale, et ils n'ont pas su dépasser cette reproduction d'élite, cette fois-ci, non pas intellectuelle, mais quasiment raciale. C'est-à-dire que vraiment, on est resté sur... Et c'est dégueulasse, parce qu'il parle à qui, la France Insoumise? Il parle le quartier, il parle aux pauvres, il parle aux campagnes. C'est ça son discours depuis le début. Et aujourd'hui, quand il faut investir, mais quoi? Il met Blanche-Neige à Bobigny, par exemple. Il a mis qui à Bobigny, vous savez?
Non.
Bah, il a mis la femme de...
Ah oui, aussi, oui, Garrido.
Garrido.
Qu'est-ce que fait Garrido?
Parachutage.
Mais oui, qu'est-ce qu'elle fait à Bobigny, cette femme? Elle n'a rien à y faire. Elle y va.
Qui est de Bagnolet, qui est élu conseiller régional sur un autre département.
Exactement, c'est hallucinant.
Toute cette semaine, j'ai eu droit à des coups de gueule. Toute cette semaine.
C'est normal.
Toute cette semaine, j'ai eu droit à des coups de gueule, justement, concernant les investisseurs.
Oui, on fait quoi après,
pour les personnes?
Il
a dit Bernard Kosoko tout à l'heure.
Un vrai coup de gueule, je vais le balancer.
Il faut aller le chercher.
Non, c'est parce que je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre d'un Européen. C'est pas ce que je veux entendre.
C'est pas un Européen?
Je sais pas ce qu'il est, quoi.
Bah, il est d'origine sénégalaise et togolais.
Je suis méchant. Je ne sais pas. Donc, là,
Kosoko.
J'ai entendu Kosoko, je pensais italien.
Non, Kosoko, il n'est pas italien, d'origine togolaise et sénégalaise, les deux.
Je vais être méchant sur un point. Je vais être très clair. Il va falloir en finir une bonne fois pour toutes avec le racisme. Il y en a marre de dire à la France, qui est un pays qui a été partout dans le monde avec un empire monumental, de leur dire: si vous étiez là-bas et que nous sommes ici, c'est quelle logique? Il faut en finir avec ce racisme d'État qui consiste à dire: le bougnoul ne peut pas se présenter parce qu'il n'a pas la bonne couleur, il passera pas. Les rares passent. C'est la vérité.
Attendez quand même.
Ça chauffe.
J'ai des amis élus.
Vous semblez oublier une chose, c'est qu'ils sont pas interdits de candidature. C'est que les principaux partis.
C'est plus subtil que
c'est
ça.
C'est le minimum.
C'est plus subtil que ça.
Mais non, mais justement.
C'est plus subtil que ça.
Il manquerait plus
que les choses soient claires. Là, il ne faut pas dénoncer le système. Il faut dénoncer les partis qui ne les investissent pas. C'est
oui,
le
oui,
c'est ça. Parfaitement le droit. Et c'est logique qu'ils se présentent, nonobstant l'appartenance politique. Je leur dirais même pur: quittez ces partis politiques et présentez-vous
mais
tout
moi,
seul.
Non, mais là,
c'est tout.
Là, Emmanuel,
c'est la réponse.
Tu es en train de dire un truc qui contredit pas ce que je dis, bien au contraire, tu vas dans mon sens. En vérité, ces partis sont condamnables parce que, par exemple, Sabrina Nouri, je donne son nom, n'a pas été investie dans sa région. Ils ont mis un petit gamin de 20 ans européen, comme par hasard. Ça, c'est intolérable.
Non, c'est intolérable.
Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas accepter.
Non, ce qui est intolérable, c'est qu'on lui a fait miroiter des choses. C'est ça qui est intolérable.
Les seuls coins où il y a des gens qui passent, qui sont d'origine étrangère, c'est les coins où il y a beaucoup d'étrangers. Il y a quand même un problème, c'est quoi? Cette façon de stigmatiser, d'éjecter, de communautariser. On fait des votes communautaires. Maintenant, on vote pas pour la bonne personne, on vote pour la bonne couleur, c'est pas possible. Et ça, c'est inacceptable.
Mais il faut dénoncer le parti qui l'a fait.
Tous les partis.
Non, mais là, ce parti-là.
Oui, alors, la LFI, je le dis. Non, mais j'ai pas peur de le dire, moi. Si je parle à M. Mélenchon, j'ai failli l'avoir une fois à la télévision, on m'a pas donné la parole parce qu'ils ont eu peur que je le désigne trop. Si je parle à M. Mélenchon, je vais lui parler de son passé pour lui dire vous venez de trop loin pour vous autoriser à exclure les gens de l'immigré.
Alors moi, je voudrais bien parler.
Moi, j'ai toujours invité Jean-Luc Mélenchon, il a toujours refusé de venir.
Alors justement, je profite de cette antenne, Adil Farkian, je profite de cette antenne pour demander un débat avec Zivka Park ici même pour la démasquer et pour parler de son bilan. Et parler de son programme aussi.
Bah, si elle est d'accord, moi je veux bien.
Je sais qu'elle nous écoute, donc qu'elle accepte l'invitation. Et je compte sur
Beurre FM. C'est le rôle de la radio.
Pour l'inviter, et on pourra parler justement de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait surtout.
Ah, comme tous les soirs, c'est chaud, hein.
Mais moi j'aime bien parce qu'Emmanuel, qui est un homme intelligent, ne va pas contester l'évidence. Et ça, j'apprécie.
Bah oui.
Ouais. Emmanuel Dupuis.
C'est pas la question.
Dupuis, c'est un nom de lieu.
Il faut juste rappeler la vérité, la question.
C'est un notable, Dupuis.
La question.
Il y a l'étage, il y a Dupuis, il y a le papa.
La question qui sous-tend notre débat, c'est qu'on donne l'impression que c'est les partis qui auraient le droit immanent de décider ce qui est bon pour les candidats.
Tout à fait d'accord.
Mais sortons de cette logique de parti. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bravo. Bravo Emmanuel, merci à Emmanuel Dupuis.
C'est aux électeurs de faire leur choix.
Merci à Emmanuel Dupuis, merci à Gamal Abina, merci et bonne chance à.
Vous lancez une invitation à Zivka Park.
Il l'a fait.
Oui. Très bien.
Oui, je l'ai fait là en direct là.
Non, mais c'est bien de le répéter.
Trois fois, ça marche mieux.
Abdeslam Itach, merci. À la réalisation, c'était Yanis. Bilal Nenman, il est où Bilal Nenman? Il est dans les couloirs? Non, il prépare son émission. Bilal. Bon, Bilal, vous le retrouvez dans une poignée de minutes. Viens vite, cours. Sprint dans les couloirs de Beurre FM. Allez, vas-y, quel est le programme? Vite, quel est le programme?
On va parler de Di Maria à la Juventus de Turin. On va parler aussi de Liverpool et de la finale de l'Europa League ce soir.
Aïe, beau programme, Bilal. Bonne émission, 20-21.
Let's go.
Allez, tout de suite, ne manquez pas, restez fidèles à Beurre FM. À demain avec autant de plaisir pour les informer. On ne lâche rien, portez-vous bien, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.